ce texte parce que je ne peux pas l'apprendre par cœur et que l'émotion qui me prend, disons, le rendra inaudible. Là, il est parti encore devant l'écran, je l'ai retrouvé. Alors, c'est un texte que j'avais lu aux journées de rencontres géopolitiques à Trouville, invité par M. Frédéric Ancel en septembre dernier. Donc, le thème du colloque, c'était les femmes sacrifiées. C'était les femmes et les gouvernements, les femmes et la politique. Donc, moi, je parlais des femmes sacrifiées. Et je voulais vous parler aujourd'hui des femmes sacrifiées au Rwanda, de toutes ces femmes violées et tuées. On m'avait chargé de parler des femmes martyrisées quand j'étais au colloque, mais je trouvais que les femmes martyrisées n'étaient pas un bon mot, parce que ces femmes ne sont pas des martyrs, au sens où elles se seraient sacrifiées pour une cause ou pour un idéal. Ces femmes voulaient vivre. Vivre et c'est tout. Le viol est un meurtre, qui laisse la victime vivante. J'étais au Rwanda du 28 avril au 10 juillet 1994. Le mot génocide n'était pas officiel, il brûlait les lèvres. J'ai travaillé comme médecin, avec Médecins du Monde, à l'hôpital de Gaïni. Je soignais les enfants dans le service de pédiatrie. J'avais fait quelques missions humanitaires auparavant, toujours avec Médecins du Monde, mais là, dans cet hôpital, dans un Rwanda déjà dévasté, ce qui était frappant, c'était le silence. Pas un cri, pas un bruit, pas le moindre gémissement chez ces 110 enfants odieusement déchiquetés par des machettes, des grenades et des lances. La moitié était isolée. Ils gisaient là recroquevillés. Ils avaient peur de leur propre mouvement, peur de se déplier. Même ceux blessés au bras n'osaient plus marcher. S'ils avaient pu arrêter de respirer. 1 074 000, 17 victimes sur 7 millions en 100 jours. Une solution finale fulgurante, inégalée dans l'histoire. Une solution finale annoncée par des meurtres sporadiques de Tutsis, des actes de génocide à répétition. Depuis 1959, l'extermination des Tutsis, la planification de leur élimination par le pouvoir, par le politique au masculin, est une obsession. Avec un plan rythmé comme des tic-tac d'une horloge, comme le tic-tac d'un compte à rebours jusqu'au signal du 7 avril 1994, l'abattage de l'avion du président Juvénal Habyarimana. Tic-tac, un Tutsi par-ci, tic-tac, une Tutsi par-là. Arrêté, torturé ou assassiné par les autorités, la police, Hutu, forcément. Tic-tac. Encercler la maison d'une famille Tutsi, la nuit, vociférer courageusement masqué, éventrer les vaches, insulter avec des noms d'animaux, le serpent, le cafard, l'inyenzi, l'animalisation, la déshumanisation en marche, nier l'homme, nier la femme, nier ce qui est soi dans l'autre, éliminer la compassion, tuer l'empathie. Quand un village entier Tutsi est brûlé, on ne dit pas pogrom. On inverse la faute. On maquille. On médiatise en une juste répression des vraies fausses attaques sous l'aveuglement compact de la majorité des Belges et des Français. À l'hôpital de Gaïni, en avril 1994, je n'ai pas soigné de femmes violées puisque je soignais des enfants survivants. J'ai regretté amèrement de ne pas avoir un stock de pilules abortives pour aider les femmes enceintes du bourreau de leurs enfants à ne pas vivre un nouveau cauchemar. Mais le viol n'était pas réservé aux femmes. Un cri strident, ininterrompu, emplit la cour de l'hôpital. Jeté dans une fosse septique sur un tas de cadavres après avoir assisté à l'exécution de sa mère, la petite Angélique hurle. désarroi de médecin. Elle n'a pas de blessure visible, insensible à ma voix, sans regard, les yeux plissés de l'effort de crier, le cou tendu, immobile. La petite repousse mes mains. Elle esquisse quelques pas. Sa démarche est maladroite et précautionneuse. Les jambes sont écartées. Le diagnostic éclate comme une évidence. Le viol. Sans un mot, je la prends dans mes bras et la mène au bloc opératoire. Allongée sur la table, elle serre convulsivement les jambes. Les mains crispées sur son pubis, elle sanglote. De fortes doses d'hypnotiques sont nécessaires. Les gémissements s'éteignent. Je respire. Les lésions sont superficielles. Les cuisses bleuies ont le plus souffert. Au Rwanda, on évalue à 250 000 à 500 000 le nombre de victimes de viol. L'écart entre ces deux chiffres donne le vertige, mais reflète bien l'ampleur du crime de masse, d'un viol arme de guerre. Ce calcul s'appuie sur les témoignages des femmes survivantes. 90% des femmes tutsies survivantes ont été violées. Les chiffres rendent très mal l'immonde cruauté des violences, leur sophistication dans le sadisme. Cette cruauté s'est appuyée sur les tabous, retournant la culture contre elle-même. Les insultes du style « Puisses-tu couper les seins de ta mère ? Puisses-tu coucher avec ta mère ?» se sont vues mises en acte. Les seins ont été tranchés, les garçons forcés à violer leur mère, les femmes ont été transpercées par des crucifixes. Le rapport sidérant entre regard et cruauté. Il s'agissait de regarder ce qu'on n'a jamais vu. Le sexe et le dedans des entrailles. La cruauté explosive d'avril à juillet 1994 a été construite avec minutie. Elle faisait partie d'un programme politique. Une propagande ancienne, rabâchée sur la femme tutsi, fer de lance du génocide. En effet, selon Josias Semujanga, rwandais, professeur de littérature africaine au Canada et auteur du livre « De la construction du mythe à la mise à mort du Tutsi », la femme Tutsi incarne l'image de la femme fatale et de la beauté féminine, une figure connue dans le discours populaire sous le thème « Ikizungerezi », celle qui donne le tournis. La Tutsi est belle et désirable, elle est bien sûr intouchable, les mâles hutus sont interdits de coucher avec l'ennemi. Et de surcroît, on aggrave sa beauté, si je puis dire, en l'affublant de péchés graves, le vice et la perversité. Elle serait un objet de manipulation des hommes tutsis eux-mêmes, et un objet de manipulation des hommes tutsis eux-mêmes sans scrupules, qui avilissent leurs femmes et les utilisent comme espionnes. En novembre 1991, le journal extrémiste Kangura, la Bible du génocide, affirme que les tutsis ont vendu leurs femmes et leurs filles aux hauts responsables hutus. Ce qui a permis de placer, dès à présent, des espionnes incontournables dans les milieux hutus les plus influents. Cette fascination pour la femme tutsi renvoie au slogan de l'ensorceleuse. Cette ensorceleuse se retrouve en Pologne avec le fantasme de la belle juive. Ses charmes envoûtants sont attribués à une origine orientale et ont nourri le versant sadique de l'antisémitisme. Les calomnies contre la femme tutsi ensorceleuse ou qui donnent le tournis, sont utilisés pour valoriser les femmes hutus en une sorte de miroir renversé. Ainsi, dans le journal extrémiste Kangura, il est précisé que tout hutu doit savoir que nos filles sont plus dignes et plus conscientes dans leur rôle de femme, d'épouse, de mère de famille. Ne sont-elles pas jolies, bonnes secrétaires et plus honnêtes ? En France, Pierre Péan, journaliste réputé, reprend le thème de la tutsi perverse sans trembler, dans son livre « Noir fureur et blanc menteur » paru en 2004. Il écrit « Les associations Tutsi hors du Rwanda ont fait un très efficace lobbying pour convaincre les acteurs politiques du monde entier de la justesse de leur cause. Elles ont infiltré les principales organisations internationales et d'aucuns parmi leurs membres ont su guider les femmes Tutsi vers les lits appropriés. » C'est la copie conforme de la propagande à Kigali. Pour détruire les femmes tutsis, le politique est au garde à vous. Les journaux affichent des caricatures pornographiques des femmes qui séduisent, des corps qui se livrent aux blancs, aux casques bleus, pour leur soustraire à l'oreille des mensonges et des femmes. Par exemple, l'histoire mensongère de Tutsi, victime de pogroms ou de torture, le Tutsi est menteur et cynique, et sa femme un objet sans âme. Les femmes tutsis se taisent Elles se cloîtrent dans une indifférence qu'elles espèrent forteresse. Elles mettent 3 pantalons en 1994 pour décourager le viol avant leur meurtre. Au bout du bout de cette propagande, la cruauté a explosé, insoutenable, pure, se nourrissant d'elle-même comme une bête immonde, se nourrissant des cris d'agonie, une cruauté condamnée à se répéter pour se justifier d'être un travail, un simple travail, un travail d'éradication d'une race jusqu'à son origine, l'utérus. Regardez la photo de la jeune fille de Nyamata. Regardez cette femme, non, vous ne la voyez pas, non, vous ne la verrez plus. La photo a disparu, imaginez-la, je vais la décrire. Le cadavre d'une femme assise à l'entrée d'une église, jambes écartées, un pieu en bois grossier, fiché dans son sexe. Vous voyez ce qu'elle a subi parce qu'elle est Tutsi, parce qu'elle est une femme Tutsi. La double peine. Cette femme que vous imaginez s'appelle Mukalandoli. C'était une jeune fille effrontée et joyeuse. Le pieu est le coup fatal, la délivrance, la mort. Mukalandoli est trop belle. Elle a assouvi, yeux exorbités, bouche béante, les fantasmes d'un peloton de miliciens avant d'être tout soulagée par la mort, par le pieu. Elle, l'affamée, la croyante, elle a cru que l'Église la protégerait, comme avant. Que son Dieu, que Dieu ne laisserait pas faire ça. Il ne peut pas laisser faire ça. Il ne peut pas laisser les Hutus en meute écarter les jambes, broyer avec une massue hérissée de clous, l'utérus caché, pour détruire la reproduction des Tutsis. Elle se souvient, elle avait 16 ans, sa mère disait « Ne sors pas seule, rentre vite de l'école ». C'est en 1992. Le génocide par le ventre a commencé. Ce n'est pas une image. Il s'agit par décision en 1992 d'éteindre la race Tutsi par un processus dit de génocide lent. Le principe est d'engrosser les adolescents Tutsi par des viols systématiques, une politique de terreur. C'est une manière d'accélérer l'élimination des Tutsi avant les accords d'Arusha, censés ouvrir la porte d'une démocratie haïe et redoutée. Les miliciens et les soldats ont violé et torturé, sur ordre. Le viol n'a pas été une arme de génocide. Il était l'arme du génocide. Ce n'était pas des dommages collatéraux. Les tortures et les mises à mort n'étaient ni aveugles ni désordonnées, mais un devoir, ordonné par le gouvernement intérimaire, ultra-génocidaire. Représenté par la caricature infâme de Pauline Nyaramasuko, la ministre de la Famille et du Progrès des Femmes. Dans la ville de Boutaré, au sous-sol d'un immeuble, des jeunes filles Tutsi étaient séquestrées. La ministre supervisait le carnage. Sa devise hurlante est « Avant de tuer les femmes, vous devez les violer ». Les enfants de 12 ans ont été forcés à détruire les jeunes filles, les fillettes, au sous-sol, forcés à extraire des lambeaux de chair, forcés à se saouler de leur souffrance. Le viol est la première étape, le deuxième est le premier cercle de l'enfer. Le deuxième est détruire la jouissance, les lèvres, couper le clitoris au sécateur, enfoncer les tessons de bouteille. La jouissance de tuer, d'obéir à l'autorité, la jouissance de faire son devoir de génocidaire, la jouissance satisfaite de débarrasser la terre de ces cancres-là, de cette mauvaise herbe. Pour un monde nouveau, heureux, forcément heureux, sans les Tutsis, le paradis.